Et nous retrouvons Sabrina Poirier, directrice de France Nature Environnement Sarthe. Bonjour Sabrina.
Bonjour.
C'était prévu qu'on vous retrouverait sur la thématique de l'eau, puisqu'il y a quelques semaines, vous nous avez dit de façon tout à fait claire et pertinente que l'eau est une ressource à préserver. Au-delà de dire cette vérité-là, puisque tout le monde, ou quasi tout le monde est d'accord là-dessus, vous donnez également des conseils sur la faculté que nous avons toutes et tous pour préserver cette ressource en eau à travers des gestes, on va dire, pas trop compliqués. Et vous allez nous emmener dans différents endroits de la maison. Et c'est bien le propos, hein, je ne travestis rien du tout, je ne m'égare pas.
Oui, c'est bien le propos. Donc, dans l'idée, c'est d'être en complément de l'émission précédente pour donner des conseils aux auditeurs sur les éco-gestes à adopter pour économiser le maximum de l'eau, tout en étant sur des gestes assez simples de manière à limiter les contraintes.
Et là, vous avez une série de petites solutions à proposer. Et on va commencer par quelle pièce de la maison ?
La salle de bain, c'est la pièce où finalement on va souvent utiliser de l'eau. Alors la dernière fois, j'avais parlé d'utiliser un gobelet quand on se lave les dents. Il faut aussi peut-être se pencher pour prendre des douches rapides plutôt que des bains. Forcément, on va moins consommer d'eau. Et j'insiste sur le côté douche rapide parce que parfois, si on met beaucoup trop de temps sous la douche, il peut s'avérer que finalement on consomme moins d'eau lorsqu'on prend un bain. Donc l'objectif, c'est prendre une douche de pas plus de 5 minutes et bien entendu couper l'eau quand on se savonne. Une petite astuce pour économiser au niveau des toilettes, c'est lorsqu'on est sous la douche, en début de douche, on peut faire pipi sous la douche. Voilà, ça permet d'économiser une chasse d'eau à chaque fois. À savoir que il y a quelques années, le gouvernement brésilien avait mis en place en fait une campagne publicitaire pour favoriser ce geste, je dirais, de manière à limiter les consommations d'eau. Donc, je trouve ça assez intéressant que un gouvernement propose en fait des solutions avec une campagne publicitaire assez rigolote à l'époque.
Pour sensibiliser la population.
Oui, c'est ça. Toujours avec la douche, en fait, très souvent, pour avoir l'eau à température, on va d'abord tirer l'eau et très souvent, elle va tomber directement dans les égouts, peut-être la récupérer jusqu'à temps qu'elle atteigne la température que l'on souhaite et après utiliser cette eau pour, par exemple, arroser les plantes ou l'évacuer dans les toilettes. Donc voilà, ça permet d'économiser quelques litres d'eau à chaque usage. Donc c'est pas négligeable de manière cumulée. On peut aussi adopter, en fait, donc là, faire des petits investissements dans ce qu'on appelle des mousseurs ou des réducteurs de débit. Donc en fait, on peut utiliser une pomme de douche plus économique qui va réduire le débit d'eau sans réduire la sensation de pression. Très souvent, on a besoin quand même d'avoir une pression d'eau assez intéressante. Et pareil, en fait, au niveau du lavabo. Donc, regardez bien au moment de l'achat quel est le débit du lavabo. Donc, à savoir que il existe sur le marché des débits très légers. Donc, par exemple, 2,5 litres par minute. Donc, en fait, c'est suffisant pour pouvoir se laver les mains, remplir un gobelet pour se rincer la bouche quand on se lave les dents. Et donc, c'est pas forcément utile d'avoir des mousseurs à 6 ou 8 litres par minute parce que le débit d'eau est trop important.
Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait arriver à faire comprendre à tout un chacun, parce que faire couler l'eau lorsqu'on se brosse les dents, ça n'a strictement aucun intérêt. terrain et puis bien choisir aussi le lavabo. Et forcément, ah oui, on n'y est pas encore, je vais trop vite, moi, on n'est pas dans la cuisine, pardon.
Eh bien, justement, on peut faire la transition pour aller dans la cuisine. En fait, pour la cuisine, même conseil de petit investissement, donc il s'agit de mousseurs ou de réducteurs de débit. Là, il faut faire attention à avoir des débits qui soient quand même suffisants, de manière à ce que quand on remplit un pichet d'eau ou un seau d'eau au besoin pour le lavage du sol, par exemple, qu'on mette pas plusieurs minutes qui peuvent nous sembler très longues. Donc un débit de 6 ou 8 litres par minute, c'est suffisant. Ça va remplacer un débit d'eau, je dirais, naturel qui est aux environs de 12 litres par minute. Donc c'est déjà pratiquement la moitié, et comme ça, voilà, on peut quand même remplir assez rapidement les besoins, les casseroles pour faire bouillir des pâtes, etc. Donc ça, c'est petit investissement. En termes de déco-gestes, on peut utiliser par exemple l'eau de rinçage des légumes pour arroser les plantes. Donc en fait, on va s'assurer de rincer l'eau dans une gamelle qui va permettre après de réutiliser. Et finalement, s'il y a un peu de terre, c'est pas grave, parce qu'on va l'apporter aux plantes. Donc c'est plutôt intéressant dans ce cadre-là. Là, on peut passer à la buanderie. La buanderie, donc on peut avoir donc la machine à laver, à savoir qu'en général, la demi-charge ne consomme pas deux fois moins d'eau. Elle va consommer plus que ça en proportion, et donc il vaut mieux favoriser des machines pleines. Donc c'est le cas aussi pour la consommation d'énergie, et c'est le cas pour la consommation d'eau. Donc c'est assez important de se dire, on favorise la machine pleine au niveau de sa capacité, plutôt que de faire des demi-charges en s'imaginant, et ça c'est une fausse bonne idée, on va consommer deux fois moins d'eau.
Qu'on se le dise, très important, et lorsqu'on fait tourner une machine, non seulement on utilise de l'eau, mais il y a également de l'électricité, etc. Tout est démultiplié. Donc attention. Et au niveau de la buanderie, est-ce que vous avez d'autres conseils, Sabrina?
Éviter de laver le linge à la main, donc dans la mesure du possible. Il y a des cycles spécifiques des machines de lavage à la main, et elles vont moins consommer d'eau que si on lave nous-mêmes le linge à la main.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, elle va avoir besoin de moins d'eau que en général ce que nous on fait. Parce que très souvent déjà, quand on lave le linge à la main, ça va être de manière ponctuelle. On va laver un vêtement, puis un autre dans la semaine, pas forcément tout en même temps. Et en termes de quantité, on va devoir remplir le lavabo et rincer plusieurs fois. La machine, elle est plus adaptée pour le faire, et donc va consommer moins d'eau. C'est un peu comme le lave-vaisselle. J'ai dû l'indiquer dans l'émission précédente. En fait, favoriser le lavage de lave-vaisselle par le lave-vaisselle consomme moins d'eau et également moins d'énergie que de laver la vaisselle à la main pour le même nombre de couverts.
Vous m'avez convaincu, c'est bon. Autre chose ?
Ouais, une chose très importante, c'est, je dirais, la chasse aux fuites d'eau. En fait, parfois, elles sont pas forcément visibles parce que, c'est des tuyaux qui fuient, qui sont pas à disposition. Parfois, c'est aussi au niveau de la robinetterie, parce qu'on a un joint qui est défectueux. Et on se dit, c'est pas grave, c'est du goutte à goutte, ça consomme pas tant que ça. Eh bien, en fait, il faut penser que c'est beaucoup plus que l'on pense cumulé dans l'année. Donc, par exemple, un robinet qui goutte, ça peut représenter jusqu'à 145 litres d'eau par jour.
C'est énorme.
Ramener. Comment ?
C'est énorme.
Oui, c'est énorme, oui. Et donc, ramener à l'année, ça représente 50 mètres cubes. Si vous vous souvenez de l'émission précédente, je parlais que 50 mètres cubes, en fait, pour être exact, c'était 54 mètres cubes, c'est la moyenne consommée par un Français. Donc finalement, ça peut représenter voilà quelque chose d'assez important. Si on parle en euros, pour un mètre cube de 3,80 €, donc je précise le coût par mètre cube parce qu'il est différent selon la localisation. Et puis si on est au tout à l'égout ou si en fait on est en assainissement non collectif, et donc ça peut représenter 190 € à l'année. Donc c'est un montant qui est assez important que l'on pourrait économiser juste en changeant les gens. Si on est sur une fuite qui est un peu plus importante, donc ce qu'on appelle un mince filet d'eau, et donc là on est plus fréquent que le goutte à goutte, eh bien on va consommer beaucoup plus, on est à peu près à 380 litres par jour, qui représente 140 mètres cubes, et un coût en euros à l'année, donc toujours avec un coût du mètre cube de 3,80 € d'à peu près 530 €. Les WC, on n'en a pas parlé lors de cette émission, mais une chasse d'eau qui fuit, c'est elle qui va représenter quelque chose qui va être le plus important. Ça peut monter jusqu'à 600 litres d'eau par jour, soit 220 mètres cubes, soit environ 830 € à l'année. Donc la chasse aux fuites est vraiment importante. Alors quelques astuces, je dirais la plus simple, quand on a une fuite d'eau qui est assez visible, c'est de faire le relevé de compteur d'eau la nuit avant d'aller se coucher. Mmh. Et en fait, de relever le compteur d'eau le matin. Et comme ça, on peut constater, donc on ne peut pas cibler, mais constater au moins si on a une fuite d'eau ou non. Donc ça permet voilà, de relever forcément s'il y a une différence. On va pouvoir voir la consommation d'eau qui est en fuite sur plusieurs heures. Donc là, on va pas forcément regarder que les mètres cubes. Il faut savoir qu'en général, sur le compteur d'eau, on a les unités en dessous les mètres cubes qui sont représentées d'une couleur différente. Et donc là, il faut bien tout noter, l'ensemble des chiffres, de manière à bien voir s'il y a quelques litres où on est à la rigueur sur des mètres cubes, quoi.
Alors Sabrina Poiry, directrice de France Nature Environnement Sarthe, ce que vous nous conseillez là, c'est peut-être aussi de regarder plus souvent son compteur d'eau, parce que si on ne se rend pas compte qu'il y a des fuites, le fait de regarder un peu plus souvent son compteur d'eau, ça pourrait nous donner des pistes.
Oui, c'est ça. Ça nous permettrait déjà de savoir s'il y a des fuites ou pas dans le logement, à savoir que quand il y a des consommations qui sont trop importantes, en général, le service des eaux qui est associé à l'endroit où on le vit nous informe parce que il y a une croissance exponentielle de la consommation d'eau. Comme je disais, ça permet pas de repérer la fuite. Ensuite, il faut faire la chasse aux fuites pour s'assurer de là où elle provient. Donc parfois, c'est pas évident parce que ça peut être des fuites dues à un tuyau poreux qui se retrouve dans les murs ou autre. Et sinon, il faut faire le tour de la maison, regarder s'il n'y a pas de l'eau au niveau du sol, en dessous la robinetterie, ou carrément passer en fait la main et voir s'il n'y a pas de gouttelettes d'eau que l'on ressent. Le plus simple, c'est vrai, c'est de voir au niveau de la robinetterie des lavabos, des éviers, quand on a le robinet qui goutte, eh bien, il est tout de suite facile de le voir. Et donc, changer les joints. Donc, si on est bricoleur, on peut le faire par soi-même. Sinon, il vaut mieux contacter un plombier chauffagiste.
Merci pour ces précieux conseils, parce que là, ça monte vite. Hein. Les chiffres que vous avez donnés par rapport aux fuites d'eau sont très éloquents. Finalement, on se retrouverait à payer juste pour des fuites d'eau, puisque la consommation qu'on aurait au final, le besoin réel en eau et ce qu'on utilise, c'est sous-dimensionné par rapport à ce que représente le coût des fuites d'eau.
Oui, c'est ça. Une chose aussi intéressante, c'est de regarder, donc là je parlais de la tuyauterie, mais il faut aussi regarder le chauffe-eau. Donc, parfois la fuite est liée au chauffe-eau et donc là on a une double peine, je dirais, parce qu'on a aussi une consommation d'énergie, quand on a un chauffe-eau électrique ou en tout cas un système à accumulation, donc lié à une chaudière par exemple, eh bien le système va toujours vouloir réchauffer l'eau qui arrive et ça va pas colmater les fuites. Donc voilà, une fois qu'on a repéré qu'on a une fuite d'eau liée au compteur d'eau, il faut vraiment inspecter l'ensemble du logement et penser à tout, pas que la tuyauterie, aussi penser aux appareils qui consomment de l'eau et notamment le ballon d'eau chaude.
Voilà pour ce que vous pouviez donner pour les pièces de la maison. Et une fois qu'on a fait le tour de la maison, Sabrina Poirier, directrice de France Nature Environnement Sarthe, on va aller à l'extérieur. Et il y a également de quoi faire ?
Oui, alors il y a deux choses qui me viennent à l'idée en complément. C'est récupérer l'eau de pluie pour arroser ses plantes. Donc en fait, ça permet voilà de limiter la consommation d'eau quand on en a besoin. La dernière fois, je disais il y a des cours d'eau qui sont mis en crise ou en alerte où on ne peut pas arroser pendant des heures bien précises, notamment voire on ne peut plus arroser. Si on a récupéré l'eau de pluie, finalement, c'est une autre manière de pouvoir continuer d'arroser les plantes. Et puis l'eau de pluie est toujours meilleure, je dirais, que l'eau du robinet pour nos petites plantes. Voilà, donc ça c'est une première chose. Et la deuxième, déjà c'est laver sa voiture dans une station de lavage. Donc pour certains endroits, c'est interdit de la laver à domicile. Donc là, les auditeurs ne le savent peut-être pas. Donc renseignez-vous de savoir si vous pouvez ou non laver votre voiture chez vous. La plupart du temps, c'est interdit. Et en fait, l'avantage d'utiliser une station de lavage, c'est qu'en fait, l'eau est recyclée. Donc ce qui fait qu'il y a moins de consommation d'eau qui va se mettre en place. Et puis, il existe de plus en plus, en fait, notamment des sociétés qui vous proposent des lavages sans eau. Ce qui permet, de réduire de manière assez importante la consommation d'eau liée au lavage de votre voiture. Et puis, bien entendu, la chasse aux fuites, c'est aussi avec, finalement, la robinetterie qui se trouve à l'extérieur. Et donc, quand je disais tout à l'heure d'inspecter partout dans le logement, c'est aussi d'inspecter à l'extérieur du logement.
Et y a-t-il d'autres conseils à l'extérieur ?
Alors là, comme ça, je n'en vois pas, mais je pense que les auditeurs ont peut-être des gestes que eux-mêmes font et donc qu'ils continuent à les appliquer. Là, j'avoue, je ne vois pas d'autres conseils à l'extérieur.
Merci beaucoup pour ces précieux conseils que vous nous avez donnés durant deux émissions sur l'importance de préserver la ressource en eau, Sabrina Poirier. Nul doute que cela va être très utile puisque dans l'actualité, on le sait déjà, dans certains territoires et même la Sarthe est concernée, on est, vous l'avez rappelé il y a quelques secondes, déjà en alerte sur certains bassins et ce n'est pas anodin.
Oui, tout à fait.
Merci à vous, à France Nature Environnement Sarthe, dont vous êtes la directrice, pour tout ce que vous permettez aux auditeurs de savoir sur le développement durable sur Radio Prévert. On vous retrouvera sûrement à la rentrée maintenant.
Oui, certainement. Merci à vous de m'avoir proposé cette émission sur les éco-gestes liés aux économies d'eau. En effet, comme vous disiez, c'est quelque chose d'important et surtout à cette époque.
C'est nous qui vous remercions, vous souhaite de passer un bel été et je suis sûr que vous allez vous reposer, mais vous allez également réfléchir à comment faire de sorte que notre belle planète se porte encore mieux. Mais bon, reposez-vous, c'est essentiel, Sabrina.
Merci, bel été à vous aussi.
Merci beaucoup et on se retrouvera à la rentrée sur Radio Prévert pour parler bien sûr d'écologie.